Chapitre 8. Une qualité du romancier, a dit un critique, est de sentir vivement et délicieusement le caractère et le charme particuliers de la contrée parcourue. Cette contrée parcourue, selon moi, pourrait être la vie, malgré ses noirs et ses chagrins, car vraiment l'amitié est une fleur veloutée, belle à ravir. Elle jetait, avec bien d'autres choses, un charme inimaginable sur le pays de mes idées. Comment me douter que peu de jours s'écouleraient avant que le bonheur de Noël ne fût compromis, et par qui ? Par moi, qui l'aimais si tendrement, moi dont les pas trébuchèrent à la première tentation. Je finissais par penser que M. Saint-Audon, n'attachant aucune importance à ma démarche, n'y songeait plus et oubliait sa promesse de me tenir au courant de ses décisions. De plus, le visage trop sérieux de Baladier m'impressionnait péniblement. Cependant, je savais le dérider en lui parlant de sa mère. Elle était revenue à Paris, m'avait vue, et, la conversation roulant sur le bonheur, elle avait dit en me regardant « Souvent, on passe près de lui sans songer ou sans savoir qu'il est capricieux. Erreur qui mène à plus d'un déboire. Erreur de la jeunesse inexpérimentée et imprévoyante. » Mon cœur, éploré, repentant, se refléta dans mes yeux, car au lieu de me tenir rigueur, Madame Baladier, en partant, m'embrassa avec bonté et me dit tout bas « J'espère encore, chère petite Rita, il est si bon !» Où était son droit de m'appeler Rita tout court ? Mais la phrase avait été prononcée avec tant de douceur que je ne fus nullement offensée. Au contraire, je ne sais quel baume se répandit sur mon esprit. Singulier effet d'un mot affectueux. Car l'espoir de Madame Baladier étant vain, je devais m'affliger. Au lieu d'affliction, quelque chose d'incroyablement doux avait glissé dans mes pensées pour s'évanouir ensuite comme un parfum qui passe subitement dans la nature sans qu'on puisse découvrir son origine. Le lendemain, on me remit la carte de M. Saint-Audon qui m'attendait dans le grand salon dédaigneux. Il n'avait rien oublié et venait m'apprendre que ses renseignements personnels n'étant pas satisfaisants, il renonçait à l'affaire. « J'ai placé mon argent en bon père de famille, me dit-il, sans chercher à gagner. Il y a antinomie absolue entre la spéculation et moi. »« Oh oui, absolue » m'écriai-je. « Vous êtes convaincu de mon incapacité, dit-il en riant. Elle vous honore. En êtes-vous certaine ?»« Je n'aime pas le spéculateur, répondis-je avec dégoût. Moi non plus. » Cependant, il faut bien penser quelquefois à l'avenir et régler ses intérêts avec intelligence. Enfin, advienne que pourra. Pourquoi advienne que pourra ? Le mot me fut pénible. En même temps, j'accusai M. Saint-Audon d'absurdité. Comment s'imaginer un instant que la question d'argent influencerait la charmante Noël ? La demande de M. Saint-Audon serait sûrement agréée. Sans doute, je saisissais fort bien que les motifs de son abstention provenaient d'une grande délicatesse, mais je ne comprenais pas que l'affection ne fût pas plus puissante que tous les motifs de la terre. Ensuite, il avait quelque fortune. Je sais bien que cet avoir, énorme pour Rita Vidal-Armand qui ne possédait rien, était une goutte d'eau comparée à la fortune de Noël, mais qu'importe, puisque son aisance était suffisante pour lui permettre de vivre sans l'argent de sa femme. Et son nom, illustré par sa valeur personnelle, qu'en faisait-il ? Enfin, chacun voit à sa façon. « Vos renseignements confirment-ils entièrement les miens ? » demandai-je. « À peu près. Ils ne sont pas aussi décisifs, mais je n'en ai pas moins suivi un excellent conseil de prudence. Avez-vous parlé de nouveau à M. Dubarral ? « Oui, il a été le premier à me dire que, devant des doutes, j'avais raison de m'abstenir. » Il me raconta que le notaire consulté avait répondu textuellement « Vous m'étonnez en m'affirmant qu'un financier très expérimenté vous a recommandé l'affaire et s'y est même engagé. » Il me l'a dit et je n'ai aucune raison de mettre en doute sa parole. Peut-être l'engagement est-il fictif et l'individu reçoit-il de l'argent pour faire mousser l'entreprise ? « Par exemple, s'écria l'honnête Saint-Audon avec indignation, c'est un homme d'une intégrité parfaite, j'en suis certain. Alors il se trompe ou c'est une aberration. Comment êtes-vous aussi affirmatif ? Et vous, pourquoi me demander avis ? parce que quelqu'un m'a mis en garde en insistant pour que je vous consulte. Ce quelqu'un-là a eu trois fois raison. Je suis aussi affirmatif parce que j'ai déjà pris quelques renseignements pour des clients qui, d'ailleurs, ne m'ont pas écouté. Espérons que je me trompe ou que j'ai été trompé. Mais croyez-moi, mon cher ami, placez vos fonds raisonnablement sans chercher à spéculer sur des chances qui seront fumées peut-être beaucoup plus vite que moi-même je ne le suppose. Naturellement, j'ai suivi son avis, non sans de nouvelles hésitations, ajouta M. Saint-Audon. C'est pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus tôt. Le conseil de ce notaire est la sagesse même, répondis-je. J'en suis particulièrement certaine. Et vous êtes ravi que je l'ai suivi, je le vois à votre visage illuminé. Je vous croyais en danger, répliquai-je simplement. Quoi qu'il arrive, je vous serai toujours reconnaissant et je vous remercie de tout cœur. Quoi qu'il arrive, vous doutez encore? Mais oui, vous voyez que mon ami admet qu'il ne peut se tromper. 10 jours après cette visite, le chavirement était complet. Le principal directeur en fuite, les actionnaires ruinés ou fortement atteints et la déconsidération sur les naïfs qui avaient bénévolement prêté leur nom. La critique la plus bénigne consistait à dire qu'ils étaient des sots, ce qui n'est jamais flatteur, mais, aux yeux de beaucoup de gens, leur honorabilité avait du plomb dans l'aile. Le matin suivant, on me prévint que M. Saint-Audon me demandait. J'étais alors devant M. Dubarral, qui m'expliquait un texte à dactylographier, pendant que, en mon fort intérieur, j'en voyais par-dessus les monts texte et banquier. « Que vous veut donc, M. Saint-Audon, Rita ?» Il n'avait pas l'habitude de vous faire tant de visites, et si je ne me trompe pas, il est venu dernièrement. Oui, tardive visite de politesse. Vous savez bien que je le rencontre souvent chez les Féval. Il doit avoir à me communiquer un message de Noël. Ah, c'est tout, dit-il en m'observant. Cela ou autre chose, m'empressai-je de répondre, car frôler le mensonge m'est odieux. Ou autre chose, très bien. Reprit-il en frappant à petits coups sur son bureau, pendant que ses yeux continuaient à fouiller mon âme. Elle était fort en peine, cette âme. Elle s'efforça de me donner un front d'airain, mais le front d'airain traditionnel se refuse généralement à me servir. Il cloche toujours par quelques points. « Eh bien, allez le recevoir !» me dit sèchement M. Dubarral. Lorsque j'entrai dans le salon, M. Saint-Audon s'avança vers moi avec émotion et me baisa galamment la main. « Comment vous remercier ? Comment ? Vous m'avez déjà remercié. Pas assez, et depuis cette nouvelle, je ne pense qu'à vous voir pour vous exprimer encore mon immense gratitude. J'ai simplement posé sur votre route un lampion allumé. Sans vous, je ne consultais pas mon ami, reprit-il en suivant son idée. J'étais si tenté que, selon toute probabilité, je me jetais dans une affaire qui eût compromis mon nom. J'en tremble encore. En vérité, il en avait presque une sueur froide et je songeais avec terreur à son état s'il s'était fourvoyé. « Que dit M. Dubarral ? » demanda-t-il. « Rien devant moi. Il perd de l'argent, je le sais. Pas beaucoup, je crois. » Beaucoup ou non, c'est la preuve de sa confiance dans le succès de l'affaire. Il croyait me bien conseiller. Vous ne pensez pas qu'il était au moins imprudent? Mais non, quand j'ai parlé assez impertinemment de me renseigner en dehors de lui, il a été le premier à m'approuver. Je crois même qu'il m'a pressé de le faire avant que j'aie parlé. Naturellement, dis-je. Pourquoi naturellement? Et c'était un homme fin qui posait cette question. Les yeux toujours clos, il ne voyait pas que les conseils en apparence désintéressés de M. Dubarral devaient augmenter sa confiance aveugle. J'allais répondre quand le banquier, aimable et souriant, entra dans le salon. « Eh bien, dit-il à M. Saint-Audon en lui tendant la main, vous êtes plus avisé que moi qui passe pour l'être beaucoup. Vous perdez énormément ?» Non, pas énormément, assez pour être contrarié. Je me demande comment vous avez vu aussi clair. On a vu pour moi, j'ai des amis précieux, entre autres un notaire qui déteste la spéculation. Je vous en félicite, répondit M. Dubarral en me jetant un regard oblique que M. Saint-Audon remarqua, car il réprima à peine un petit saut de carpe. Je sais, reprit M. Dubarral, que certaines gens ont été influencés parce que je patronnais l'affaire en donnant des fonds, et j'en suis désolé. Il est certain que ma confiance en vous m'avait presque décidé. Confiance en moi, elle n'a pas persisté longtemps. Nouveau regard oblique sur ma personne impassible, inquiète et révoltée. Quelle comédie jouée avec l'apparence d'un aimable censeur discutant une question morale. Mon notaire était péremptoire, répondit M. Saint-Audon, et surtout, je suis un timide en opérations financières. En tout cas, dans l'espèce, vous avez eu raison de suivre un avis différent du mien. C'est assez bien fait pour moi si je suis la première victime de mon imprudence et de celle plus grave de la direction. Vous êtes bien indulgent pour la direction. J'appelle son imprudence de la friponnerie. Le mot est plus juste en effet, répondit en souriant M. Dubarral. Mais j'ai lieu de penser qu'une partie de la direction se faisait elle-même illusion. Je le croirais difficilement, répliqua M. Saint-Audon, qui semblait chercher dans la lune une lumière absente pour lui de notre planète. Il est positif que... Mais je vous empêche de causer avec Mademoiselle Vidal-Armand, dit M. Dubarral avec la même aisance de petit saint. Plusieurs lueurs, semblables à des feux follets ayant frappé les yeux de M. Saint-Audon, il répondit tranquillement « Je n'ai rien à dire à Mademoiselle Vidal-Armand, si ce n'est qu'elle est attendue ce soir aux Iris. Noël désire la voir. » « C'est entendu, répondis-je. Après le dîner, j'irai passer quelques instants avec mon amie. » L'heureuse diversion de M. Saint-Audon prouvait qu'il saisissait l'avertissement des feux follets. Elle nous permit une honorable retraite, mais ne dérouta point M. Dubarral. Ils sortirent du salon ensemble et j'attendis quelques minutes avant de m'aventurer dans mes domaines. Quand je traversai le vestibule des bureaux, M. Dubarral prenait son chapeau et me dit « Vous déjeunez seul, Rita, je sors. Pressez-vous de terminer votre travail. » Son ton sec, impérieux, me troubla et, malgré ma joie incommensurable d'avoir sauvé M. Saint-Audon d'une aventure qui eût pris pour lui l'allure d'une catastrophe, je me sentis fort mari. Je n'avais jamais pensé au danger que courait ma situation. Si M. Dubarral, dont une arrière-pensée était évidente, me congédiait, comment gagnerais-je ma vie ? Mes petits talents, admis chez mon parent, ne séduiraient personne et je connaissais l'incroyable concurrence. Elle menaçait de me laisser sur le carreau. Alors, où serais-je protégé ? Un sage a dit « Ne compte que sur toi-même ». Soi-même, c'est bien court dans la vie. Toutefois, mon optimisme habituel chassa un moment ces sinistres pensées, d'autant que, avec mes économies, je pouvais vivre au moins 4 mois tranquille dans ma demeure et, à tête reposée, prendre mes dispositions. Mais lesquelles ? Où aller ? Comme je cessais de travailler pour réfléchir encore, Balladier entra chez moi. Il paraissait distrait, inquiet. « Avez-vous des amis qui se soient laissés prendre à de belles promesses, Mademoiselle Rita ?»« Non, je ne connais personne qui se soit laissé prendre. » « Vous m'étonnez. Pourquoi ? Je croyais que Saint-Audon... »« Non, des amis l'ont dissuadé. »« Ah ? Mais vous-même, auriez-vous changé d'avis et engagé des fonds dans... »« Non, non, je ne suis pas allé de ce côté-là. » D'après son ton, je compris que s'il n'était pas allé par là, il existait un autre côté où il était allé. « Vous semblez bien soucieux. » « Je suis inquiet, perplexe, déçu, et je déteste la perplexité. »« Madame votre mère va bien, dis-je pour changer de conversation. »« Très bien. Quelle femme charmante !»« Je l'ai vue dimanche dernier, nous avons beaucoup parlé de vous, mademoiselle, » me dit-il avec un visage moins nuageux. Je fis un plongeon poli en regardant ma machine d'un air significatif. « Je vous laisse, me dit-il, je vous ennuie. » « Nullement, si ce n'est que vous vous êtes livré à des pensées pénibles que je désire connaître et que vous dissimulez. Je suis votre exemple, jamais vous ne vous plaignez et bien des choses vous font souffrir. »« Bah, qu'en savez-vous ? Tandis que pour vous, c'est différent. Je vois clair. »« Je le sais. » Il appuya fortement sur le mot. Vraiment, dis-je avec vivacité, je voudrais vous tendre une main amie. Vous le faites en disant cela. Oh, certes, je crois dans votre science divinatoire. Ce que je dissimule, vous le savez en partie. Je saisis mon papier et me mis en demeure de taper éperdument. Mais, avant de partir, il prit ma main qu'il serra trop longuement et s'en alla avec le même air soucieux. Pauvre, pauvre baladier! Les chevaux emmêlés se dévidaient. Je comprenais enfin que Baladier n'avait jamais trempé sciemment dans une manœuvre équivoque, qu'il perdait peu à peu sa belle confiance et que M. Dubarral, le considérant comme un homme facile à berner, l'avait probablement conduit dans un guépier. Mais, benêt ou non, avec son bon sens et surtout ses connaissances financières, M. Baladier était de taille à se défendre. Sa position ne ressemblait pas à celle de Saint-Audon. Bien que l'invitation de Noël fût une pure invention, je m'en allai le soir vers les iris. L'esprit reposé d'un côté, je trouvais un charme inexprimable dans le chemin paisible qui, déjà, si souvent, m'avait conduite vers une affection réelle. Je l'aimais, ce chemin, comme on aime toutes les choses matérielles qui rappellent des satisfactions du cœur. L'engoulevent faisait entendre sa note mélancolique, les cri-cris par centaines annonçaient la chaleur et le crépuscule tombait comme un voile sur la campagne. Les rêves de ma vie, beaux et chimériques, marchaient devant moi. J'oubliais leur folie, je les saisissais un instant, mais ils s'échappaient pour s'envoler vers les iris. Je les regardais disparaître sans éprouver ni chagrin ni dépit. Cher Noël, elle méritait bien que les rêves l'entourent et se réalisent. Telle fut ma pensée en la voyant venir au-devant de moi avec Madame Féval et M. Saint-Audon qui avaient annoncé ma visite. Je le connaissais assez pour apercevoir une nuance d'inquiétude, d'ennui, de je ne sais quoi dans son regard intelligent. Il mit tant d'empressement à me tendre la main que Noël et sa mère parurent un peu étonnés. Le beau sourire de mon ami disparut et j'en fus troublé. Croyait-elle donc que les sentiments de M. Saint-Audon prenaient une nouvelle direction? Une petite étincelle de jalousie avait-elle pétillé, pour s'éteindre, du reste, à peine parue? « Vous voyez, me dit-elle, un homme qui vient d'échapper au plus grave danger. Il en est tellement heureux qu'il voudrait embrasser tout le monde. »« Quel danger ? » fis-je hypocritement. « Comment ? » répondit Madame Féval. « Ne connaissez-vous pas l'effondrement de l'affaire dont René a parlé plusieurs fois devant vous et à laquelle il voulait confier une somme importante ?»« Oui, je connais. Mais M. Saint-Audon, je crois, n'était pas décidé. »« Presque décidé, » répondit Noël, « et c'eût été terrible. »« Terrible, » répétai-je très tranquillement. L'air étonné de Noël me fit sourire. « Eh bien, si vous prenez aussi tranquillement le danger couru par un ami, mais vous me dites que tout est terminé, je n'ai donc plus qu'à me réjouir. » Je me fiais avec raison à l'esprit de cet ami, car il ne souffla mot sur les agissements que je voulais garder secrets. Seulement, au moment de rentrer, il me dit « Voulez-vous m'accorder une minute d'entretien, mademoiselle ?»« Un entretien? Quel est ce mystère ?» s'écria Noël. « Je l'ignore, » répondis-je. « Rien de bien mystérieux, » reprit M. Saint-Audon, « mais il s'agit d'une petite affaire qui concerne uniquement Mademoiselle Vidal-Armand. « Promenez-vous devant la maison, » nous dit Madame Féval, « nous vous laissons le champ libre. » Les lumières du grand salon s'étendaient sur la zone où nous fîmes les 100 pas pendant quelques minutes. Que de choses se passent en quelques minutes. « Mademoiselle, » commença M. Saint-Audon. Il s'arrêta et, pour la première fois, je le voyais embarrassé. « Mademoiselle, permettez que je vous pose une question indiscrète. » Les rôles avaient changé de main. Ce n'était plus moi, hésitante, inquiète, qui m'ingérais dans les affaires d'autrui. « Voyons la question indiscrète. » Vous m'avez sauvé d'un grand malheur, vous l'avez fait d'après des données prises dans vos fonctions, fonctions assez confidentielles. Si M. Dubarral l'apprenait, en auriez-vous des ennuis? Quels ennuis? Vous savez bien que M. Dubarral est inattaquable. Alors, que lui importerait la petite indiscrétion d'un puceron de mon espèce? Il penserait sans doute que mes aperçus ont coïncidé avec une réalité, c'est tout. Mademoiselle Vida Larmont se sauve par la tangente, dit en souriant M. Saint-Audon. Je ne la reconnais plus. Ah, quelle idée! Répondez franchement. Croyez-vous vraiment que ce serait tout? En face d'une question aussi directe, impossible de mentir, ou, comme il le disait, de me faufiler dans le chemin de la tangente, et sans plus réfléchir, je répondis brièvement. Non, je ne le crois pas. Et que croyez-vous? Que M. Dubarral me mettra peut-être à la porte s'il découvre que j'ai profité de ma position pour vous renseigner. Je crois que la découverte est faite. Je méditais un instant avant de répondre. Moi également. Et cependant, vous voyez que je ne suis pas touché. Tout est si récent. À la porte, dites-vous, alors que deviendriez-vous? Bah, je ne serai pas en peine. J'entrerai comme dactylographe n'importe où. N'importe où, voilà ce qui ne peut pas être et ne sera pas, affirma-t-il énergiquement. Je ne demande pas mieux que ce ne soit pas. Des amitiés, la vôtre certainement, me découvriront une situation convenable. Pour une jeune fille élevée comme vous l'avez été, elles sont jolies, les situations dans une famille, ou moins encore, un bureau. Chez M. Dubarral, vous êtes protégée, posée par votre parenté avec lui. Oh, notre parenté, il n'en fait pas grand état. Enfin, attendons que les ennuis soient arrivés. M. Dubarral ne m'a pas encore congédié. Il est très bienveillant pour moi. Qui donc ne serait pas bienveillant pour vous ? Répondit M. Saint-Audon avec une chaleur qui amena un peu de rougeur à mes joues. Il n'est pas dit, continuai-je, que les présomptions de M. Dubarral deviennent une certitude. Mais vous êtes inquiète ? Mon inquiétude est-elle fondée? Elle l'est, et vous seriez sur le pavé. Je serai dans ma chaumière, voulez-vous dire, et je vous assure qu'elle est un abri charmant. Un abri charmant ne fait pas vivre. Ne vous inquiétez pas, je m'en tirerai à merveille. D'un geste agacé, il planta son chapeau sur sa tête, l'enleva aussi vite, et sans ajouter un mot, se dirigea vers le perron. Noël, accoudé au balustre, nous attendait et nous dit « La conférence n'a pas été longue. Elle l'était par ses conséquences que ni elle ni moi ne pouvions prévoir. »